France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Bonjour Éric Piolle.
Bonjour.
Vous êtes maire de Grenoble, en duplex de France Bleu Isère, et merci aux collègues donc de France Bleu. Vous êtes, Éric Piolle, le seul maire et Europe Écologie Les Verts d'une grande ville, et vous publiez un livre, Grandir ensemble, les villes réveillent l'espoir. Le livre paraît aux éditions Les Liens qui libèrent. Quel est donc cet espoir que vous voulez réveiller à partir des villes?
Eh ben, c'est un moment un peu historique dans lequel nous sommes, hein, dans lequel on voit que les États sont paralysés et où on voit que les villes, en pratique, mènent des projets concrets qui parlent à nos concitoyens pour la justice sociale et la justice environnementale. C'est vrai à Grenoble, mais c'est aujourd'hui vrai à Amsterdam, qui a un maire écolo aussi, à Innsbruck en Autriche, qui a un maire écolo, à Valparaiso au Chili, à Berkeley en Californie, à Barcelone. Ça bouge un peu de partout, et parce que c'est dans ces territoires-là, à l'échelle des villes, qu'on peut allier cette justice sociale et cette justice environnementale qui fait tant défaut à l'échelle nationale.
Et d'ailleurs, vous avez la dent dure hein, dans votre livre sur les contre les politiques de l'État, l'État accusé d'être trop centralisateur, d'être sous l'influence des lobbies, c'est ça ?
Oui, c'est vrai qu'il y a un retournement complet de l'histoire. Nous avons vécu un moment de décentralisation pendant 25 ans. Et puis 2014, avec l'arrivée de Valls au pouvoir, et puis surtout 2017, avec l'arrivée de Macron au pouvoir, nous vivons, nous tous, dans les territoires, un mouvement de recentralisation. On nous force la main avec des contrats qui viennent non seulement réduire nos capacités d'action, mais essayer de les flécher pour devenir des opérateurs de l'État. Là où la COP21 a au contraire exprimé fortement cette attente des territoires, parce que c'est nous qui faisons la transition énergétique. À Grenoble, en 2022, nous couvrirons les besoins, l'équivalent des besoins des Grenobloises et des Grenoblois, avec une énergie 100% verte, ni fossile ni nucléaire. À Grenoble, on a de la justice sociale dans les tarifications des services publics, hein, une tarification sociale de l'eau, une tarification sociale de la mobilité, des transports, un travail pour la santé avec dans chaque quartier, et un travail aussi autour de l'alimentation, du développement.
On va reparler de ces mesures locales bien précises. Patricia Martin.
La privatisation de l'urbain, Éric Piolle, c'est quelque chose qui apparemment vous fait horreur. Les biens communs comme l'eau, le gaz, l'électricité, les autoroutes, les chemins de fer, les hôpitaux, les écoles, que sais-je.
Oui, effectivement, parce que je crois que ce qui est devant nous, hein, pour relever ce défi incroyable de justice sociale et justice environnementale, c'est de cultiver ensemble des biens communs, de garantir des sécurités pour chacun et de cultiver ensemble des biens communs. À Grenoble, nous avons été les premiers, il y a 20 ans, à remunicipaliser l'eau. Et c'est des choses qu'on retrouve un peu partout, même dans l'encyclique du pape. Il dit que la privatisation de l'eau est une des sources de conflits mondiales. Donc évidemment, cette question de qui va piloter ce qui est essentiel pour nos vies quotidiennes? Qui va piloter cela? Est-ce que c'est l'intérêt général ou est-ce que c'est des intérêts privés? Ça va être un enjeu extrêmement fort des années à venir.
Alors parmi les mesures les plus spectaculaires que vous avez prises à Grenoble, monsieur le maire, c'est notamment la fin de votre contrat avec Deco pour supprimer plusieurs centaines de panneaux publicitaires à l'entrée des villes et dans les villes. C'est au nom de la pollution visuelle, c'était bien ça l'idée?
Au nom de plein de choses, en fait, c'est une mesure qui appartient à plein d'imaginaires différents. À la fois, j'ai rencontré des grands-mères qui amenaient leurs enfants, leurs petits-enfants à l'école et qui en avaient marre de passer devant ces publicités qui sont pas très réjouissantes, essentiellement autour des voitures, de l'alcool, de la lingerie féminine, des grandes surfaces de périphérie. J'ai croisé des anticapitalistes qui disaient que c'était là une victoire contre ce système-là, des commerçants de centre-ville qui voient bien que ces publicités ne sont pas destinées à eux. Donc ça appartient à beaucoup d'imaginaires. Je crois surtout que c'est en lien avec notre désir d'authenticité. Nous voulons aujourd'hui vivre des vies en nous redéfinissant nos conditions d'existence et ne pas se laisser broyer dans cette société de la surconsommation qui nous abîme et qui abîme la planète.
Surconsommation et inquiétude aussi climatologique. Il faut dire que dans les Alpes, vous êtes un peu aux premières loges à Grenoble pour voir les dégâts climatiques sur la montagne.
Oui, on vit ça de façon très concrète, évidemment. Nous avons l'année dernière, l'été 2018, la voie normale de la Meije, qui est un des grands sommets mythiques de la conquête des Alpes du 19e. Cette voie normale s'est effondrée et cet été, des guides sont repartis en expédition pour retracer une nouvelle voie normale. En début septembre, là, c'est la voie normale de l'Holland, qui est un sommet magnifique à 3600 mètres, qui s'est effondré. Et l'été dernier, c'est les écrins, le dôme des écrins, qui a été où les guides ne voulait plus aller au mois d'août parce que c'était trop dangereux. Donc c'est vrai qu'on perçoit cette fonte du permafrost en haute altitude et nous sommes dans un environnement à Grenoble absolument extraordinaire qui fait aussi notre sensibilité sans doute à cette protection de la nature, à cette humilité de l'homme aussi et à la lutte contre la pollution puisque nous avons lancé la plus grande zone à faible émission de particules fines de France.
Vous citez Victor Hugo, un extrait des Misérables en exergue de votre livre. Il se trouve qu'il y a un film qui va sortir dans quelques jours, Les Misérables de Lajli, qui a été primé à Cannes, dans lequel il est dit juste à la, c'est la fin du film, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Et c'est toujours Victor Hugo qui écrit. Le cultivateur, en l'occurrence, c'est le maire.
On est dans des positions d'animateur parce qu'on est au contact de la population. Effectivement, on a une variété de contacts extraordinaires. J'étais cette nuit, là, on avait une nuit de théâtre pour la réouverture d'un théâtre au village olympique, un quartier historique qui a été créé pour les Jeux de 68. J'étais ce matin un peu plus tard sur un marché à prendre le café avec ceux qui étaient là, des marchands, des policiers qui étaient là pour assurer leur service. Et donc, effectivement, on est dans des positions où on est au contact de tout le monde. Et donc, on est en capacité aussi, peut-être, de créer des projets dans lesquels chacun met un peu de côté ses origines culturelles ou ses activités professionnelles pour faire ensemble des choses qui ont du sens. Et c'est pour ça que c'est assez magnifique, oui.
Faire ensemble, justement, on va s'y arrêter un peu par le prisme de la politique. Il faut rappeler que toutes ces initiatives que vous avez prises pour relancer ces justices sociales et environnementales, ça a été rendu possible grâce à la fin du bipartisme que vous avez mis en place à Grenoble, bien avant Emmanuel Macron en 2017. La fin du bipartisme, vous l'avez mise en place dès 2014, lorsque vous vous êtes présenté à la mairie de Grenoble. Quelle était votre stratégie et d'ailleurs avec quelle formation politique locale ?
Oui, c'est vrai que c'est une histoire un peu singulière parce que moi j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, donc je suis un récent de la politique.
Et vous en avez été viré, pas très proprement, paraît-il. Vous l'expliquez dans votre livre.
Oui, effectivement. Et quand les écologistes à Grenoble sont venus me voir pour savoir si cette aventure municipale me portait, est-ce que j'étais disponible pour cela, après une première fois avoir dit non, finalement j'ai dit oui, ok, mais si en fait notre objectif n'est pas d'être des lanceurs d'alerte ou n'est pas d'être des contre-pouvoirs, comme l'écologie politique l'a longtemps été et de façon utile, mais si notre objectif c'est de finalement de cristalliser cette majorité culturelle et de lui donner un débouché politique pour qu'on sorte d'être plein de contre-pouvoirs isolés là, qui cherchons à faire des choses très chouettes, mais qu'on se dise que tous ensemble en fait nous sommes le pouvoir.
Qui a dit oui localement
en pratique, tout l'arc humaniste
à
l'époque. Oui, à l'époque, tout l'arc humaniste, sauf le Parti Socialiste, bon, qui était dans cette logique de bipartisme, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense, du coup, effectivement, on voit que Olivier Faure cherche à faire évoluer les sociodémocrates et le Parti Socialiste vers un peu plus d'écologie, et même beaucoup plus. Et on voit, effectivement, ce mouvement qui constitue, finalement, trois blocs. Hein, un bloc d'extrême droite ou de droite de repli sur soi, on va dire, qui est marqué et puissante, populiste, qu'on voit d'ailleurs en France, mais dans tous les pays d'Europe, voire du monde. Un deuxième bloc qui s'assume maintenant, qui est au pouvoir en France, ultra-libéral assez brutal et sécuritaire, mais ultra-libéral assumé. Et puis cet arc humaniste qui peine aujourd'hui, en tout cas à l'échelle nationale, qui peine à trouver un projet derrière lequel il puisse s'unir de façon positive, non pas dans des alliances de partis, mais derrière un projet. Et à l'échelle locale, c'est peut-être plus simple, oui.
Mais vous dites que votre élection a été un coup d'État citoyen.
Bah, en tout cas, ça a été une sorte d'électrochoc, parce que tout d'un coup, tous ces militants investis, tous ces militants du quotidien, tous ces gens qui n'avaient pas de culture politique, mais qui sentaient ce souffle et ce désir d'authenticité, se sont dit que, tiens, oui, effectivement, ils pouvaient exercer le pouvoir, les responsabilités.
Mais vous non plus, vous n'aviez pas de culture politique. Vous êtes arrivé très tard dans la vie politique.
Oui, il y a une dizaine d'années.
Ça prouve qu'on s'entraîne, ça prouve qu'on peut s'entraider à être élu. Ça veut dire que le passage de la société civile à le mandat d'élu, on n'est pas obligé de démarrer à 20 ans en étant attaché parlementaire, salarié politique, puis petit élu, puis gros élu, et de passer par toute cette grille qu'on connaît des professionnels de la politique.
D'ailleurs,
on peut effectivement s'entraîner à être élu, donner une morceau de son temps pour cela.
D'ailleurs, Éric Piolle, votre corpus politique rappelle un peu les ambitions des Gilets jaunes, hein, quand ils réclament une société plus éruptive, qui irait donc du bas vers le haut, et non plus l'inverse. Quelle proximité de réflexion, voire d'action, vous sentez-vous avec les Gilets jaunes ?
Je les ai reçus tout de suite, mi-novembre, quand ils ont lancé leur mouvement, parce que c'était pour moi la réponse à cette phrase incroyable d'Emmanuel Macron, hein, qui sépare la France en deux, les winners et ceux qui ne sont rien. Et finalement, le mouvement des Gilets jaunes, c'était ceux qui ne sont rien, qui leur disent, nous sommes la France aussi, hein, et nous avons une capacité de contribution. Et il y a un très beau livre que deux chercheurs grenoblois ont sorti sur les Gilets jaunes au printemps, qui raconte cela de façon très humaine, comme François Ruffin l'a raconté dans son film Je veux du soleil, qui est aussi extraordinaire de cette humanité qui a émergé, qui évidemment a des difficultés, on le sait tous, hein, d'organisation, de débordement, etc., mais qui exprime une volonté, un refus de la désaffiliation. Jacques Toubon parle de désaffiliation, et je crois que c'est ça un peu finalement dans ce discours des winners. Et ben derrière, il y a ceux qui sont désaffiliés, ils n'ont pas leur place autour de la table pour discuter de l'avenir de la société. On ne pourra pas faire sans ceux qui, aujourd'hui, que le pouvoir considère comme désaffiliés.
Les winners et les débuts de cordée, hein, pour reprendre précisément les mots d'Emmanuel Macron. Un mot de politique, je rappelle Éric Piolle que vous êtes le seul maire écologiste d'une grande ville à Grenoble. Depuis le succès d'Europe Écologie Les Verts aux européennes avec plus de 13% des voix, votre parti s'est imposé aujourd'hui, hein, comme la troisième force politique du pays. Vous sentez que ce sera enfin plus facile pour les listes écologistes dans les villes de France en mars prochain?
Il faut rester très humble par rapport à cela. À Grenoble, ce n'est pas les écologistes qui ont gagné. Je conduisais une équipe faite de citoyens, d'associations écolo locales, de gens qui sont aujourd'hui dans la France Insoumise, qui étaient à l'époque dans le Front de Gauche, et de membres d'Europe Écologie. Donc c'était très divers, et ce qui nous a rassemblés, c'est de faire un projet ensemble, et derrière, les mouvements citoyens et les organisations politiques ont pu se mettre au service de ce projet. Donc c'est vrai que je ne suis pas pour des alliances de principe entre partis, mais pour la construction d'un projet commun. Je crois que c'est ça qui permet de fédérer, et notre score aux européennes, on peut évidemment se réjouir du score plutôt positif par rapport aux 7 ou 8% qui étaient annoncés. On peut aussi se dire que nous avons une grande étape à franchir, puisque nous devrions être à la même hauteur que les deux autres blocs, hein, le bloc d'extrême droite et le bloc ultralibéral. Ce bloc humaniste, il devrait être là, au-delà de 20%, comme il est d'ailleurs dans d'autres pays. Et donc, nous avons ce travail d'humilité pour sortir de cette histoire de lanceur d'alerte et de contre-pouvoir et venir composer un projet avec d'autres et se mettre au service de ce projet. Ça marchera sans doute mieux que si on dit à tout le monde, venez vous mettre derrière notre grand panache vert.
Juste une mise au point, Éric Piolle, sur le vote des Grenoblois. Vous dites que vous êtes favorable à un vote dès 16 ans, ouvert également aux étrangers, qu'ils soient légaux ou non. Pour être précis, ça ne peut pas encore concerner les prochaines élections municipales. Vous faites plutôt allusion, je présume, à tous ces dispositifs de projets locaux, participatifs et citoyens dans votre ville, c'est bien ça ?
Oui, c'est effectivement dans la démocratie locale, au quotidien, nous faisons avec tous les habitants et tous les habitantes. C'est ce que nous avons dit d'ailleurs dans des tribunes, notamment autour des questions de l'urgence, avec des maires, qu'ils soient de droite ou de gauche, et moi-même, dans des tribunes, en disant que pour nous, de toute façon, ce sont là des habitants. Et donc, les habitants du territoire, quels qu'ils soient, ils sont légitimes pour travailler sur des budgets participatifs, pour aménager un morceau de quartier, pour s'entraîner à cette démocratie locale.
C'est de la démocratie participative. Elle est d'ailleurs chère aussi au président de la République. Or, vous rappelez que dans ce domaine, à Grenoble, le gouvernement vous a mis des bâtons dans les roues, c'est-à-dire ?
Oui, elle n'est pas chère du tout au président de la République, non.
On peut espérer la démarche participative, en tout cas dans les faits, il les multiplie en allant faire des débats nationaux, locaux.
Oui, voilà, on peut espérer qu'effectivement les gilets jaunes aient un petit peu créé un électrochoc. Mais de fait, le gouvernement Macron nous a attaqué au tribunal pour notre dispositif de votation citoyenne parce qu'il était ouvert aux plus de 16 ans, parce qu'il était ouvert à tous les résidents, quel que soit leur statut par rapport aux listes électorales. Et parce que le troisième argument, c'était que les élus ne pouvaient pas se déposséder de leur capacité de décision.
Vous croyez en l'improbable, comme Edgar Morin, que vous citez dans votre livre ?
Oui, fortement, fortement. C'est vrai que sinon, tout ce qu'on nous annonce n'est pas très réjouissant. Les rapports du GIEC sont toujours plus alarmistes. Je crois profondément que l'histoire de l'humanité est faite d'événements improbables. Oui. J'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de partager une journée de travail, de témoignage de Gorbatchev qui nous avait raconté un peu tout cet improbable avec un prof d'histoire de Harvard qui nous racontait l'improbable. À l'époque, c'est parce que je gérais des réseaux internationaux et donc on cherchait à articuler optimisation et robustesse de ces réseaux. Je crois que nous devons cultiver notre robustesse, notre résilience et effectivement cultiver l'improbable. C'est ce qui fait la magie de la vie aussi. Oui.
Ni optimiste ni pessimiste, hein, pour reprendre aussi les mots d'Edgar Morin. Éric Piolle, maire de Grenoble, un mot sur la confirmation du procureur de la République qui a confirmé le caractère criminel de l'incendie d'une église à Grenoble cette semaine. Incendie revendiqué par une mystérieuse mouvance anarcho-libertaire. Il faut dire que cet incendie vient s'ajouter à toute une série de faits similaires qui a touché la mairie, qui a touché la gendarmerie. 7 incendies en 2 ans en Grenoble. À Grenoble, est-ce que tous sont criminels et tous ont un lien entre eux ?
Ben ça, tous ont un lien, je ne sais pas. Il faudrait que l'enquête le montre. C'est vrai que dans le grand bassin grenoblois, à Grenoble, mais aussi à Mélan, à Saint-Martin-d'Hères, dans beaucoup de communes, nous avons vu depuis maintenant 2 ans et demi un grand nombre d'incendies criminels, donc. Et c'est assez interpellant. C'est assez interpellant, mais ça ne touche pas notre capacité d'action. Le dernier en date, c'était la salle du conseil municipal, mais ça ne touche pas notre capacité d'action et je crois que ça ne touche pas notre vitalité ni notre désir de travailler ensemble.
Votre désir de grandir ensemble, pour reprendre le titre de votre livre. Merci beaucoup Éric Piolle. Grandir ensemble, donc les villes réveillent l'espoir. C'est votre livre un peu bilan ou en tout cas qui résume un peu votre parcours et vos ambitions. Ce n'est pas encore un livre programme pour la municipale, mais ça y ressemble tout de même à un premier pas. Ça paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup Éric Piolle et bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.